Radio TerraZen, la web radio qui vous éveille à la vie en toute simplicité.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Olivier Burette. Nous sommes dans Histoire du soir et c'est la reprise en fait, mais d'une manière beaucoup plus sporadique que l'année dernière de ces émissions, avec une émission donc ce soir consacrée à la conquête, c'est-à-dire en gros la conquête de l'Amérique du Sud, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique latine. On verra d'ailleurs ça de façon plus subtile tout à l'heure, et de quelques faits mythiques et mystérieux liés à celle-ci. Cela va nous plonger dans les débuts du XVIe siècle. Ça, ce sera pour l'émission de ce soir, et puis donc pour les prochaines, une fin avril, le 26 avril, car peut-être certaines seront en différé, étant donné tout simplement des conjonctions d'emploi du temps diverses. Fin avril, le 26 avril, on en fera une sur le célèbre cabaret ésotérique du Chat Noir, son histoire, tout ce milieu assez étrange et intellectuel qui a gravité autour du quartier de Montmartre à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et puis une autre prévue fin juin, le 28 juin, pour le moment, dont le thème sera précisé prochainement, mais qui recouvrira un aspect méconnu du Moyen-Âge, puisque j'ai choisi comme titre une histoire méconnue de la période qui a suivi immédiatement les croisades, la question de l'Ordenstadt. L'Ordenstadt, qu'est-ce que c'était? Eh bien, c'était un état constitué par des chevaliers, essentiellement des chevaliers teutoniques d'ailleurs, mais pas que, qui se sont constitués en un état dans ce qui représente à l'heure actuelle à peu près les Pays-Baltes et une partie de la Prusse. Ça s'est appelé l'Ordenstadt, c'est-à-dire l'état ordre, un état géré intégralement par des chevaliers qui a été combattu dès le début de sa création, tant par les royaumes de Pologne que par l'Empire russe, disons les grands états slaves naissants de la région, et qui évidemment ont mis un terme à cet Ordenstadt. On reviendra donc là-dessus. C'est un épisode extrêmement inconnu, voire totalement ignoré dans l'histoire. Histoire médiévale, enfin on en parle très peu, mais j'ai pensé que c'était intéressant. Donc ce soir, dans l'espace d'à peu près une heure que durera cette émission, un petit peu plus, un petit peu moins, nous le verrons, nous aborderons donc la question de ce que l'on appelle dans l'historiographie la conquête. La conquête, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est toute cette série de clashs, pourrions-nous dire, hein, entre l'Europe en plein essor, à peine sortie du Moyen-Âge, en plein début des grandes découvertes, en plein surtout début de la Renaissance, cette Europe de la fin du XVe siècle, du début du XVIe siècle, qui donc va s'élancer vers ce continent totalement inconnu, évidemment, à l'époque, puisqu'il le sera seulement à partir de 1492, comme vous le savez, par Christophe Colomb, et surtout s'élancer au travers de cet océan Atlantique dont on ignorait tout à l'époque, mais on commençait à avoir la technologie, évidemment, permettre, de bien pouvoir s'attaquer à désormais mettre un terme à ce qu'on appelait la circumnavigation, c'est-à-dire le cabotage, c'est-à-dire reconnaître, explorer des nouvelles terres, mais en restant pas trop loin des côtes, hein, ou se promener dans la mer Méditerranée, dans le monde ancien qu'on connaissait. Il s'agit d'une véritable révolution, puisque en cherchant une route maritime par l'ouest, pour atteindre plus rapidement les Indes, puisqu'en fait il s'agit au début de ce qu'on appelle la conquête de l'Amérique, de la future Amérique latine, des Amériques, il s'agit avant tout d'objectifs économiques. Il ne s'agit pas du tout de se dire voilà, on va prendre un jour un bateau avec des voiles révolutionnaires et puis s'élancer comme ça vers un océan Atlantique dont tous les écrits de l'époque, toutes les connaissances de l'époque, qui plus est affirmaient encore que la Terre était plate, eh bien disaient tout simplement que au bout de cet océan, eh bien, on tombait dans le vide et dans les enfers avec une mort parmi les plus horrible assuré. Donc voilà qui ne donnait pas tellement envie de continuer plus loin. Mais voilà que bon, les circonstances économiques, les technologies, et je dis bien les technologies, c'est-à-dire les toutes ces inventions qui vont à partir du 15e siècle apparaître. Sur le plan culturel, on le sait, ce sera l'imprimerie avec Gutenberg, 1450 en Allemagne, à partir du moment où donc effectivement les connaissances confinées, nous dit-on, évidemment, c'est l'image d'Épinal, tout ça, je le sais bien, mais hélas, nous ne pouvons pas détailler plus. Toutes ces connaissances confinées dans les abbayes. Toutes ces connaissances vont s'ouvrir à toute la population, parce que tout simplement, on va pouvoir désormais les imprimer en centaines d'exemplaires et ainsi lancer tout simplement ce qui va s'appeler le mouvement de la Renaissance, c'est-à-dire cette sortie de la période médiévale qui dure quand même 1000 ans. Cette période médiévale et l'arrivée dans la période de la Renaissance, c'est-à-dire l'arrivée de la redécouverte du beau, n'est-ce pas, du beau dans le sens antique du terme, bien sûr, ce qui ne veut pas dire que les œuvres du Moyen-Âge étaient laides, ce qui n'a aucun sens que de dire cela. Tout cela nous a mené, à cette première grande révolution. L'autre, bien sûr, c'est l'invention de la boussole. La fameuse boussole qui va donc permettre aux navigateurs de pouvoir s'orienter. En effet, comme je l'indiquais tout à l'heure, d'aller explorer un petit peu plus loin que les fameuses cabotinages de navigation le long des côtes. On va pouvoir s'aventurer au large grâce à la boussole. Quelques autres inventions importantes, le gouvernail sur les navires, l'amélioration technologique des voiles qui vont être plus solides. On va bâtir des bateaux plus forts, plus puissants, qui vont pouvoir donc effectivement s'élancer sur les mers lointaines. Et puis, il y a aussi le contexte global. Contexte global, 1453, c'est vraiment, on est à la fin du Moyen-Âge, c'est l'apologie, c'est l'apothéose plutôt que l'apologie d'ailleurs, l'absus révélateur, l'apothéose de l'empire, ottoman, de cet empire ottoman musulman, qui en 1453 en finit définitivement avec Byzance et l'empire romain d'Orient, et désormais s'impose, Constantinople sera prise, c'en est vraiment terminé. Du christianisme oriental, c'en était déjà terminé avec la fin des croisades, rappelez-vous, à peine deux siècles avant. Ça va en être terminé définitivement aussi avec cet empire romain d'Orient, alias Byzance. L'empire turc, qui désormais est immense, extrêmement puissant, va commencer à envahir une partie de l'Europe du Sud-Est, des Balkans notamment. Empire ottoman qui ira jusqu'à Vienne, ne l'oubliez pas, au XVIIe siècle, ça n'est pas rien. Empire ottoman qui verrouille évidemment. Quoi donc ? Eh bien, la fameuse route de la soie, la route des épices, la route du commerce oriental, si important pour l'économie de cette époque. Et c'est de cela, et bien oui, de ce fait-là, que et bien, cette idée de partir, de s'élancer vers l'Ouest, hein, de trouver une route autre pour contourner tout simplement ces problèmes géopolitiques de l'époque, et bien que, en effet, Christophe Colomb, ce navigateur, eh bien, va être financé tout simplement par eh bien, la couronne d'Espagne, qui va avoir l'idée, effectivement, d'envoyer Christophe Colomb sur l'océan Atlantique et mettre le cap à l'ouest pour chercher cette route des Indes. C'est la fameuse année 1492, bien sûr, hein, autre date importante de ce 15e siècle, hein, 1453 comme j'ai dit tout à l'heure, 1492, année importante à deux sens symboliques du terme. Premier sens, bah, ça va être la découverte de l'Amérique, disons plus simplement de Hispaniola, c'est-à-dire en fait des îlots qui longent l'île de Cuba, hein, et disons des Caraïbes, parce qu'en fait ce sont les Caraïbes, hein, que va découvrir notre ami Christophe Colomb. Mais néanmoins, à partir de là, tout va changer, car on va savoir qu'on a découvert un nouveau monde et que derrière ces îles, hein, des Caraïbes, et ben, derrière, pas si loin que ça, à quelques centaines de kilomètres, 50-100 kilomètres, il y a là un continent tout entier, hein, qu'on ne connaît pas, en tout cas que les contemporains de l'époque n'en ont jamais entendu parler. Et ça, ça va être une révolution totale, parce qu'on va comprendre assez rapidement que ce continent, bah, c'est pas l'Inde. On va appeler les habitants de là-bas les Indiens, les Indes orientales, etc. Mais non, on comprendra très très vite, effectivement, qu'il s'agit d'un continent tout entier, un continent que l'on va pouvoir exploiter sur le plan économique, car c'est ça la vérité. Au-delà, bien sûr, du choc des civilisations dont on va parler dans un instant, au-delà de tout cela, il y a cette idée, bien sûr, de pouvoir étendre les immenses volontés de création d'empires coloniaux de l'époque et le lancement, le décollage, effectivement, de l'Europe comme la grande puissance dominatrice, hein, du monde, hein, à partir de cette époque-là. Sachez, hein, bien sûr, que comme on le sait, tout cela durera quand même jusqu'au début du XXe siècle, ce qui représente quand même une période importante de l'histoire. Après quatre grands siècles, hein, de l'histoire européenne, hein, au travers de sa domination de l'Amérique latine, qui va se mettre en place. Alors, plus précisément, 1492 aussi, date extrêmement importante, parce que, eh bien, c'est aussi celle où, on parlait tout à l'heure de la grande puissance de l'Empire ottoman, hein, eh bien, c'est aussi, hein, la date importante qui est représentée en 1492 par la prise du califat de, évidemment, de l'Andalousie, c'est-à-dire de Grenade. Effectivement, c'est la fin de la reconquête, hein, de l'Espagne, l'Espagne qui avait été l'Espagne, donc le pays donc hispanique, hein, qui avait été conquis, hein, presque tout entier. Au Moyen-Âge, hein, le vieux royaume visigothique, hein, rappelez-vous, eh bien, avait été conquis, hein, par les Maures, hein, par les musulmans de l'époque, hein, qui ont établi une civilisation qui a quand même duré pendant plusieurs siècles. On le sait aussi, c'est la Reconquista, hein, dès le Moyen-Âge. Les princes chrétiens de l'époque vont s'unir, hein. Il y a Charlemagne qui combattra, mais bien d'autres, hein, et ceux dès le Haut Moyen-Âge, hein, pour faire reculer, évidemment, et reconquérir ce royaume chrétien d'Espagne. Et c'est 1492, en effet, la date symbolique, en effet, le califat donc, de Séville tombe. C'est la prise de Grenade, toute l'Espagne est donc redevenue, toute la péninsule hispanique, parce que ça inclut aussi le Portugal, bien sûr, hein, est redevenue donc chrétienne, un royaume chrétien. Extrêmement important, ça aussi. L'Espagne toute puissante qui va donc pouvoir désormais asseoir son rôle de État chrétien rénové, hein, libéré, et surtout à la porte de conquérir le monde, comme elle va le faire, effectivement, ou croire le faire, en tout cas, dans le XVIe siècle qui va s'ouvrir, hein, et qui sera marqué, en effet, dans le sillage des conquêtes de Christophe Colomb, par tout simplement ce que l'on va appeler les grandes découvertes. Et quand je dis les grandes découvertes, bien sûr, il s'agit ici de se concentrer sur, bien entendu, la conquête de ce qu'on appelle les Amériques. Alors ces Amériques, en effet, on le sait aujourd'hui quand même, étaient connues en fait depuis bien plus longtemps que ça. En effet, les Vikings et quelques expéditions aujourd'hui prouvent que l'on a retrouvé notamment dans le nord de l'Amérique du Nord, si je puis dire, le Canada, etc., des restes de comptoirs, de navigateurs qui s'étaient aventurés là et qui avaient évidemment établi quelques contacts avec les populations indiennes des environs, mais ce sont restés des événements sporadiques, même si effectivement l'archéologie aujourd'hui nous montre que l'on a retrouvé en effet pas mal d'artefacts occidentaux, de navires occidentaux, donc de la période qui recoupe à peu près avant l'an 1000, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle encore le Haut Moyen-Âge. Mais néanmoins, c'est vraiment Christophe Colomb, 1492, qui vont évidemment établir premier grand choc. Alors, dans tout ce sillage, qu'est-ce se passe-t-il ? Bien sûr, ce sont aussi, cette période des grandes découvertes, celle aussi des premiers navigateurs qui vont faire le tour du monde. Alors bien sûr on retiendra le cas du Portugais, du Portugal, Vasco de Gama, qui est descendu jusqu'à la pointe sud de l'Afrique, et puis d'autres navigateurs qui vont progressivement tout simplement faire ce qu'on appellera d'ailleurs les premières circumnavigations. Alors tout cela amène un contexte tout à fait nouveau, et il faut retenir dans le cadre toujours de ce que j'indique là, que ces grandes découvertes, et précisément donc cette conquête de l'Amérique latine, s'organise en trois temps, pour faire simple, parce qu'on n'a pas évidemment le temps de tout raconter, de tout développer, ce sera le temps des conquistadors. Donc, première manche, si je puis dire, c'est Christophe Colomb qui va établir les premiers comptoirs en 1492, on l'a dit tout à l'heure. Les dates de Colomb étant 1451-1506. Puis ça va être vraiment la prise de contrôle par l'Espagne des deux grands empires indiens de l'époque. D'une part l'empire aztèque, qui sera conquis par Hernán Cortés. L'empire aztèque, ça correspond à quoi ? À peu près au Mexique actuel, donc le sud de l'Amérique du Nord. Cet empire aztèque dont la conquête va durer de 1519 à 1521, et qui sera mené donc par Hernán Cortés, dont les dates sont 1485-1547. Cortés qui, retenez cette anecdote, elle est quand même connue, quand il débarquera sur les côtes aztèques, sera d'abord accueilli comme un véritable dieu, car les aztèques vont le considérer comme étant la réincarnation du serpent à plumes, et donc pour eux ça correspondait effectivement à une période d'Eldorado qui devait se produire, c'est le cas de le dire, et Cortés va bien sûr jouer là-dessus. Ils comprendront, ces pauvres aztèques, mais un peu tard, que évidemment Cortés s'est joué d'eux, et ce sera emparé, liquidera leur empereur et s'emparera évidemment de leur empire. troisième phase, hein, ben ce sont les Incas. Hein, cet empire Inca. Alors qu'est-ce que c'est que l'empire Inca? Ça correspond à quoi? Bah, ça correspond à peu près à une partie de l'Amérique du Sud actuelle, hein, c'est-à-dire en gros hein, une bonne partie du Pérou, hein, et également un peu en descendant plus au sud, puisqu'on a retrouvé des artefacts aussi très au sud, hein, du Chili. Ça donc c'est pour l'empire Inca, hein, de conquis lui de 1532 à 1574 par Francisco Pizarro, accompagné de ses deux frères de 1475 à 1541 pour ces dates, hein, Francisco Pizarro né en 1475, mort en 1541, hein, et une conquête qui va durer quand même presque 42 ans de combat, il faut l'imaginer, hein, de 1532 à 1574, hein, c'est assez long, hein, quand on compare aux trois années qui ont permis à Cortés de s'emparer de l'Empire aztèque, 1519-1521. Alors dans tous ces cas de figure, hein, on peut quand même se poser des questions. Comment est-ce que centaine d'hommes à peine, hein, embarqués sur de frêles esquifs, certes équipés d'armures, équipés de mousquetons, équipés de petits canons, équipés de chevaux, et d'un armement tout à fait moderne de l'époque, hein, mais comment si peu d'individus, hein, ont pu mettre à bas en quelques années et quelques décennies à peine, hein, ces empires gigantesques qui étaient installés là. Car ne l'oublions pas, hein, les Amériques, hein, à cette époque-là, on peut quand même dire qu'elles se divisent en deux. On a une Amérique du Nord, aujourd'hui considérée comme étant le Canada, territoire des États-Unis, et l'Alaska, quoi, hein, bon, cet ensemble-là qui est composé effectivement de populations qui étaient là. Hein, un peu comme dans le cas de l'Australie, hein, dont on avait déjà parlé dans le passé, hein, il y avait des millions de gens qui étaient là, hein, on les a éliminés tout simplement, hein, c'est là le grand drame de ces fameuses conquêtes, hein. Il y a là aussi, il y avait des populations indiennes, mais qui étaient relativement, dans une phase de développement que l'on appellerait chasseurs-cueilleurs, hein, donc relativement des primitifs, entre guillemets, parce que bien sûr, toutes ces notions-là sont à relativiser, il ne s'agit évidemment pas d'individus primitifs, mais de civilisations qui par contre avaient un développement tout à fait différent et qui en était au stade effectivement plutôt de la chasse et de la cueillette, comme on dit, itinérante. Mais ce n'était pas le cas des populations plus au sud. Populations plus au sud qui, elles, étaient très développées et en étaient à un stade à peu près correspondant à notre antiquité actuelle. Puis romain par exemple, empire grec d'Alexandre, au niveau de leur développement. C'est tout à fait clair, c'est le cas de l'Empire aztèque avec ses pyramides extraordinaires. C'est le cas des Incas avec leur système routier qui, encore aujourd'hui, nous déroute totalement. Et surtout composé d'armées de millions d'hommes, avec des empereurs, des empires centralisés. Hein, avec une des civilisations raffinées dont hélas, hein, cette conquête sauvage, hein, anéantit plus de la moitié, plus de 80-90%, hein, du savoir de ces peuples perdus peut-être à jamais. Il faudra tout le génie d'un Bartolomé de las Casas, hein, cet ecclésiastique, pour essayer de reconstituer une partie de leur savoir, hein. À ce sujet, s'il n'y a qu'un seul conseil littéraire, cinématographique à voir sur ce sujet de ce soir, hein, bah c'est d'aller précipitez-vous et revoyez la controverse de Valladolid, qui bien sûr est très intéressant. C'est cet événement majeur de la période de la conquête au XVIe siècle, hein, où l'Église a dû trancher, hein, entre le fait de savoir si les Indiens avaient une âme, c'est-à-dire ces peuples aztèques, incas, etc., etc., avaient une âme ou non, auquel cas, s'ils avaient une âme, on n'avait pas le droit de les réduire en esclavage, hein, ou alors, s'ils n'en avaient pas, bah, effectivement, cela pouvait justifier tout le système esclavagiste abominable, hein, mis en place par les Portugais et les Espagnols dans la région. Un système qui se met en place très vite, parce que toutes ces régions-là, on veut les faire travailler, hein, pour faire fonctionner l'économie coloniale de ces empires en pleine constitution. Et puis surtout, hein, et on en parlera tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, hein? Eh bien, c'est la recherche frénétique de l'or. Parce que les grands mythes, hein, s'il y a un des grands mythes qui concerne l'Amérique latine, hein, et je dis Amérique latine parce que c'est celle où on parlera l'espagnol, parce que ça inclut évidemment le Mexique, hein, ça inclut le mot Amérique latine, inclut l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, hein, et puis l'Amérique, et puis le Mexique, c'est important, hein, c'est encore le cas à l'heure actuelle. Bon. Et ce que cherchaient tous ces conquistadors, hein, eh bien, c'était l'or, le fameux mythe de l'Eldorado, c'est-à-dire ces histoires incroyables, hein, ces légendes qui sont nées au début de la conquête, racontant que, évidemment, ces peuples habitaient dans des cités en or, ces peuples vivaient dans l'or, enfin, etc., etc. Or, on le sait bien aujourd'hui, ce qu'on va retrouver de tout cet or, ben, c'est pas grand chose. En effet, ces empires vont être pillés comme pas permis. Les galions espagnols et portugais vont partir vers l'Europe, hein, chargés à plein de toutes ces découvertes. Mais évidemment, on sait aussi, ça développera aussi le phénomène de piraterie, bien sûr, notamment dans les Antilles, hein, évidemment. Mais ça va surtout aussi être une déception parce qu'on ne ramènera jamais tout l'or que l'on avait imaginé que l'on allait trouver par là. Donc, vraiment dramatique, parce que cette controverse de Valladolid aura pour conséquence de dire et de trancher que le pape de l'époque, eh bien, tranchera en disant que ces Indiens ont une âme et que, bien sûr, eh bien, il va falloir trouver une autre main d'œuvre. Et ce sera la naissance, c'est aussi une des conséquences, hein, de cette période de la conquête. C'est une des conséquences majeures, c'est la naissance du commerce triangulaire. Qu'est-ce que c'est que le commerce triangulaire? Eh bien, c'est très simple, c'est peut-être le plus grand de tous les scandales de l'esclavage de l'histoire humaine. Il s'agissait de navires occidentaux, espagnols, français aussi, oui, car la France a joué son rôle là-dedans, mais hispaniques beaucoup, hollandais, portugais, qui partaient vides vers les comptoirs africains, qui étaient déjà bien connus à l'époque, en échange de verroteries se chargeaient de populations africaines, hein, généralement jeunes, hommes, femmes, que l'on emmenait en cale sèche dans des conditions effroyables, hein, jusque les nouveaux comptoirs, évidemment, des colonies des Amériques. Donc vous voyez déjà, on est là dans le deuxième morceau du triangle, hein, premier morceau du triangle, les grands ports occidentaux jusqu'aux côtes africaines, deuxième morceau du triangle, hein, eh bien, les ports africains traversés de l'Atlantique dans des conditions abominables et atroces, je ne vous raconte pas, pour atteindre évidemment les Amériques. Et puis, ces populations-là étaient évidemment réduites dans un esclavage effroyable pour exploiter, hein, bien sûr, les nouveaux territoires, hein, conquis par les empires portugais, hispaniques, hein, et autres. Et troisième morceau, du triangle, bien sûr, ce sont ces galions qui, cette fois-ci, se remplissaient évidemment d'or et de produits locaux qui reconvergeaient à leur tour vers les ports occidentaux. Voilà ce que c'est que le commerce triangulaire, un épouvantable scandale de l'esclavage. Il faudra attendre quand même le 18e siècle, et plutôt la fin du 18e siècle d'ailleurs, voire une bonne partie du 19e, pour que cette abomination soit définitivement dénoncée et stoppée. Et c'est aussi la naissance, bien sûr, des populations africaines, des Afro-Américains, les Afro-Américains qui peuplent une bonne partie de l'Amérique latine, le Brésil, les Antilles, et tous les autres pays. Mais c'est ça, ils viennent de là. Hein. Et bien sûr, le grand symbole qu'aura été la présidence du président Obama, hein, d'origine afro-américaine, hein, aura été là pour le rappeler, ça aura été un grand symbole extrêmement important. Alors, tout cela, évidemment, nous donne une image relativement, évidemment, quelque peu, non pas ternie, mais, disons, dramatique, finalement, de ces opérations de conquête. Alors, évidemment, ces civilisations, on a vu, on a compris que le choc technologique, les ruses de Cortés ont emporté évidemment une conquête rapide contre les Aztèques, mais aussi ça n'explique pas nécessairement comment l'Empire Inca, lui, en quoi quelques décennies, va complètement disparaître. Lui aussi, sous le coup des quelques centaines de conquistadors de Pissarro, qui, bien que peut-être rusés, etc., ça ne suffit quand même pas pour soumettre des armées de millions d'hommes, hein, à ces quelques individus, ces poignées d'individus débarqués de leur galion. Et plusieurs théories circulent, théories bien sûr déjà d'ordre de choc technologique, bon, certainement qu'effectivement la différence technologique entre une armée d'Inca avec des arcs et des flèches contre une armée évidemment faite de mousquetons et de canons et d'hommes en armes, en cuirasses, etc., font que évidemment il est plus que probable que l'avantage stratégique, la ruse, ont joué un rôle important. Mais il y a aussi une théorie qui est beaucoup plus importante, qui d'ailleurs est la théorie la plus courante, qui est celle du choc bactérien. C'est-à-dire que les Occidentaux, en gros, ont ramené des maladies qui venaient d'Europe, qui n'étaient totalement inconnues dans ce continent américain, et qui se sont répandues très vite et évidemment ont exterminé par milliers, par centaines de milliers, tous ces sujets de ces empires Inca et Aztèques. Alors, il en reste qu'il s'agit d'un monde nouveau, en effet. Un monde nouveau dont l'archéologie, telle que nous la connaissons comme une science à l'heure actuelle, ne se développera pas avant le XXe siècle. Il faudra attendre en effet que, par exemple, cette cité extraordinaire des Andes, qu'on appelle le Machu Picchu, hein, puisse être repérée par un aviateur par hasard, hein, au début des années 20, hein, pour qu'on comprenne que, effectivement, eh bien, en dehors des grands ensembles de Mexico, hein, de Teotihuacan, etc., de tous ces gigantesques ensembles, il y en avait encore d'autres qui étaient cachés au fin fond des forêts et qui n'avaient rien à voir avec le fameux Eldorado que l'on cherchait, mais étaient des cités, hein, tout à fait extraordinaires, hein, dont l'archéologie, hein, ne faisait que commencer. Parce que, bien sûr, cette course à l'Eldorado, hein, eh bien, va donc se poursuivre pendant une bonne partie du XVIe siècle, puis on comprendra assez vite qu'on ne trouvera rien, hein, et que tout ça n'était que des... des chimères. Alors, j'ai retenu principalement, parce que bien sûr cela prendrait des heures, sinon des jours, quelques trois points focaux, si on peut dire, trois hotspots, hein, sur lesquels on pourrait s'attarder concernant donc ces Amériques et des choses qui sont, encore inexpliquées à l'heure actuelle. Alors, celle que j'ai retrouvée en premier concerne des boules de pierre découvertes dans le sud du Costa Rica. au milieu d'une ancienne culture indienne qu'on appelle la culture d'Iquis. Alors ces boules qu'on appelle los bolas en espagnol, eh bien on ne sait pas grand chose. Ce sont des sphères, des pétrosphères principalement, donc de roches volcaniques. Elles sont très variables, elles s'étalent de quelques centimètres à plus de 2 mètres de diamètre. La plupart ne dépassant pas toutefois le mètre. Elles sont donc dans cette région. On n'a pas d'informations particulières, si ce n'est qu'elles dateraient des alentours du 9e siècle. On a effectivement très très peu d'informations. Encore une fois, on est vraiment sur ces choses dans une archéologie qui vient à peine de débuter. Mais bon, ont-elles un lien avec la culture indienne qui était installée dans cette région-là du Costa Rica? Sont-elles plus anciennes? Ça nous renvoie aussi à la civilisation des Olmecs, peuple extrêmement mystérieux dont on ne sait presque rien, qui était antérieur à l'Empire aztèque. Les Aztèques, eux, ne savaient rien, enfin en tout cas du moins c'est ce que l'on en sait aujourd'hui. Et surtout, ces Olmecs, qui se caractérisaient, eux, alors non pas par des sphères gigantesques, parce qu'encore est-il de savoir si ces sphères ont été conçues par l'homme ou non, bien difficile d'y répondre, mais se caractérisaient par des sculptures de têtes absolument gigantesques, qui sont réparties dans un certain nombre d'ensembles, de regroupements dans la forêt. Tout ça se trouve plutôt en Amérique centrale, pas de nouvelles en plus sur ces civilisations Olmèques. C'est bien là le problème aussi, c'est que en dehors de la disparition des grands empires qui ont été conquis, dont on a parlé tout à l'heure, mais eux on peut expliquer leur disparition du fait évidemment de l'arrivée des Occidentaux, on a aussi des civilisations de plus anciennes qui sont apparues et ont disparu sans aucune raison, durant toute une période, disons allant de l'ère chrétienne à peu près à l'an 1000, dont on ne sait rien. Donc il y a beaucoup de choses, quand on parle d'archéologie mésoaméricaine, qui nous ramène à on ne sait pas, on ne peut avoir que des suppositions. Il est certain que la culture des grandes pyramides aztèques, de la capitale, donc qui sera plus tard Mexico, ces ensembles étaient absolument gigantesques. Ces pyramides, évidemment, nous rappellent quand même fort étrangement celles de l'Égypte, et que on a quand même manifestement une période de l'histoire de l'humanité où le fait d'ériger des pyramides était quelque chose de global. Rappelez-vous d'une émission lointaine que nous avions faite sur les mégalithes, où on peut parler effectivement là aussi d'une civilisation des mégalithes, alors que tous ces peuples n'avaient aucun moyen de communiquer entre eux. Des océans, des milliers de kilomètres, aucun moyen technologique de se voir. Donc c'est assez intéressant, c'est un fait. Après, beaucoup d'explications sont fournies peuvent apparaître plus ou moins fantaisistes, cela dépend. Mais néanmoins, on est là dans un certain nombre de faits. Et c'est ça qui est important aussi avec cette conquête de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale, de l'Amérique latine, c'est que justement l'esprit, la mentalité des contemporains européens du XVIe siècle va littéralement exploser. Parce que tout simplement, dans le vieux monde ancien refermé du Moyen-Âge qui se termine, on n'imaginait pas qu'il pouvait y avoir autre chose par-delà les mers. Un peu comme aujourd'hui, et jusqu'au moment où je parle. Nous sommes là en février, début février 2019. Jusqu'au moment où je vous parle, il n'est inimaginable à l'heure actuelle, pour l'essentiel des contemporains qui entendent, qui peuvent écouter éventuellement cette émission, qu'il y ait ailleurs sur Terre en dehors de la Terre, si je puis dire, d'autres civilisations, même si nous pouvons l'imaginer, étant donné le nombre invraisemblable d'exoplanètes que l'on découvre de façon régulière. Mais pour l'instant, c'est encore impensable. Et donc il faut se replacer dans le contexte de l'époque, et c'est très important, que justement, c'est un véritable choc à la fois pour ces peuples indiens de là-bas, de voir les Occidentaux arriver, c'est-à-dire d'autres êtres dont ils n'imaginaient même pas l'existence, et avec un niveau technologique bien supérieur à eux, ce qui va d'ailleurs avoir pour effet de les terroriser. Si on prend Cortés comme étant un dieu, la réincarnation de Quetzalcoatl, c'est-à-dire le dieu serpent ailé, imaginez une nef extraterrestre arrivant au-dessus d'êtres religieux humains, je ne sais pas, aux alentours de l'an 1000, qu'est-ce que penseraient ces gens, si ce n'est qu'il s'agit là d'une manifestation tout simplement de Dieu. Eh bien, c'est exactement le même rapport. Donc, on a beaucoup, je pense, beaucoup de leçons à tirer, beaucoup de leçons à tirer de ce fameux choc que représente tout simplement l'élargissement de notre champ de perception du monde. C'est ça aussi le XVIe siècle. Ces peuples d'Amérique, des Amériques, c'est quelque chose qui était impensable pour les contemporains de l'époque, totalement impensable. Et pourtant, ça arrive. Ça arrive, et ces civilisations mystérieuses vont littéralement exploser. Leur connaissance va littéralement débarquer dans cette Europe en plein bouillement, de magma de pensée de l'époque. C'est extrêmement intéressant. Le deuxième hotspot que j'ai choisi, c'est évidemment la question des fameux alignements de Nazca. Et je vous rassure tout de suite, nous n'en avons toujours pas plus d'explications que cela, à part quelques théories que j'exposerai ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Nazca? Alors, c'est dans le sud du Pérou, je l'ai dit tout à l'heure, que le gigantesque empire Inca regroupait tout cela. Là, on a découvert sur la frange de l'océan Pacifique, c'est la partie donc ouest du continent, en 1927. Et oui, et pourquoi 1927? Parce qu'on l'a vu, deviner de quoi, d'un avion, un peu comme je parlais tout à l'heure du Machu Picchu qu'on avait retrouvé. Ben là, c'est pareil. On vole au-dessus de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on voit? Des espèces de lignes droites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont des routes? Qu'est-ce que c'est? On les découvre en 1927. Alors, ce sont des lignes qui font plusieurs kilomètres. Elles sont dans un désert qu'on appelle le désert de Nazca, dans le sud du Pérou. Et ce sont des géoglyphes, souvent, qui sont couverts de cailloux que l'oxyde de fer colore en rouge. Donc, ces géoglyphes sont sont le fait d'une civilisation particulière, donc de cette région, qui est évidemment antérieure aux Incas, qu'on appelle la civilisation Nazca. C'est une culture pré-Inca qui s'est développée entre 300 avant notre ère et 800 de notre ère. Imaginez, donc pratiquement une civilisation qui va durer plus de 1000 ans, dont on ne sait, devinez quoi, rien, ou presque. Alors c'est tout à fait fascinant, parce que pourquoi diable est-ce que ces peuples, alors que évidemment l'aérien, vous imaginez bien, au début de l'ère chrétienne, ça n'existait pas, se sont-ils pris d'idée d'aller tracer des lignes parfaites, car ces lignes sont parfaites. C'est pas du tout tracé comme ça quand vous êtes au sol et que vous n'avez pas de moyens de projection, vous ne pouvez pas tracer une ligne droite comme ça sur des milliers de kilomètres, c'est pas possible. Alors, comment ont-ils fait? Et surtout, pourquoi? Pourquoi représenter ainsi ce qu'on va progressivement identifier comme étant un gigantesque calendrier astronomique hein, avec des géoglyphes représentant des dieux, des lézards, toute une cosmogonie étrange, comme ça, dans un désert, qui ne pouvait être vu qu'en altitude, hein, et que donc, depuis, évidemment, des moyens aériens. Alors les géoglyphes sont approximativement répartis le long d'une ligne de 50 km reliant les villes de Nazca, de Palpa, de la région d'Ica. Je vous recommande, toujours pareil, petit clin d'œil à Internet quand même, d'aller voir sur Google Earth. Vous vous centrez sur la région de Nazca, c'est quand même assez intéressant de voir que ces lignes, effectivement, sont vraiment tout à fait impressionnantes. Et... saluons au passage les travaux de Maria Reich, qui a été une archéologue, hein, qui s'est considérablement intéressée à tout cela. On parle déjà de ces géoglyphes dans les chroniques du Pérou, du conquistador Pedro Cieza de León, en 1553, donc en pleine période de Pizarro, hein, de la conquête espagnole de la région. Hein. Et plusieurs équipes, hein, d'archéologues vont travailler au fur et à mesure des siècles, hein, sur tout cela. Notamment une équipe japonaise, hein, qui va mettre à jour, alors en avril 2006, une centaine de géoglyphes géométriques. En janvier 2011, une tête humaine de 4 mètres sur 3 et un animal de 7 mètres sur 3, vous vous rendez compte. En avril 2013, deux humains au centre du plateau de Nazca. En avril 2014, 17 animaux de petite taille, de 5 mètres à 10 mètres, identifiés comme des lamas. Donc, on représente, hein, soit des figures imaginaires, hein, ou fantasmées, hein, d'animaux de l'époque, mais néanmoins, ces braves Nazca représentaient quand même ce qui les entourait. Hein. Les lamas, hein, on sait très bien où on les trouve, dans les Andes, ça tombe bien. Bon. Juillet 2015, 24 animaux similaires à ceux découverts en 2014 dans une région adjacente. Et enfin, un animal tirant la langue de 30 mètres de long en avril 2016. Donc, gigantisme, hein, que ces fameux alignements de Nazca. Il n'y a pas vraiment d'explication. Il y a une théorie quand même qui explique et qui nous indique, bon, bah, effectivement, on parle d'un calendrier astronomique, hein, ça, cela va de soi, et que par des techniques mathématiques, hein, ces peuples, en effet, les Nazca ont réussi, hein, tracer ces fameuses lignes droites, car c'est ça, nous, occidentaux, européens, rationalistes, qui nous étonne. Alors il y a plusieurs théories, hein. Alors il y a la théorie la plus connue, bien sûr, qui est la théorie ufologique, celle qu'on connaît bien, dite des anciens astronautes, c'est-à-dire de contact que ces peuples latino-américains, et alors pas que les Nazca, mais bien d'autres, hein, auraient eu. Je vous renvoie, bien sûr, à certaines images, certains dessins retrouvés représentant des personnages, effectivement, qui ressemblent vraiment à des astronautes, enfin des personnages en tout cas recouverts de combinaisons spatial, d'objets qui ressemblent évidemment à des nefs extraterrestres. Bon, tout cela, cette théorie est bien connue, et jusqu'à, bien sûr, là aussi, petit clin d'œil à quelques références, mais relisez Vol 747 pour Sydney, hein, et vous verrez justement que cette dimension sur les anciens astronautes est particulièrement évoquée. D'autres théories aérostatiques, disant que les géoglyphes ne pouvaient avoir été tracés qu'en faisant appel à un engin volant. Alors, notamment l'archéologue Jim Woodman émit l'hypothèse de l'emploi de ballons à air chaud, représentés selon lui sur des tessons de poterie. Alors voilà déjà quelque chose de plus rationnel, en tout cas. Construire un ballon à l'aide de techniques, de matériaux, déjà c'est pas mal, intéressant de voir que ces peuples, des peuples aussi primitifs, hein, avaient pu imaginer de constituer des ballons, hein, pour tracer leur fameux calendrier gigantesque. Hein. théorie qui tient pas trop la route, parce qu'on dit aussi, les traducteurs disent que c'est ce que Woodman voit comme étant des ballons, en fait des haricots en train de germer, des représentants des gens. Il y a aussi la théorie radiesthésiste, disant que les Nazca avaient développé l'irrigation pour pallier les manques d'eau chroniques dans la région, puisque c'est un désert. Et donc il était très facile d'accès aux habitants actuels, ils s'en servent encore. Alors les figures et les lignes serviraient de repères tout simplement pour des sources. Bon, peut-être, enfin de là à représenter des lézards quand même. Théorie électrosismique. Donc comme quoi tout cela était des conducteurs pour que les Nazca repèrent notamment des zones dangereuses pour les séismes. Intéressant la théorie sur les séismes, parce qu'on sait que cette frange de la côte ouest des Amériques est quand même sujette à pas mal de tremblements de terre. On ne revient pas sur la faille de Sant Andreas, elle est évidemment à des milliers de kilomètres plus au nord, mais ça en est quand même sur un côté sismique là où la terre peut trembler. Bon. Peut-être. Moi, je pense à une théorie, je ne suis pas du tout spécialiste, bien sûr, peut-être une théorie à mi-chemin, expliquant quand même une certaine technologie mathématique permettant effectivement d'arriver à tracer ce gigantesque calendrier astronomique. Naïvement, pourquoi gigantesque? Pour être vu d'en haut, mais vu d'en haut peut-être pas par des extraterrestres, mais vu d'en haut simplement par les dieux. Hein, les dieux de ces peuples, voilà, tout aussi naïvement que cela soit. Hein. Je vous renvoie là-dessus à une émission qui m'est chère, même si elle était assez difficile à réaliser, que j'avais réalisée sur Radio Terra Zen. Cette émission qui portait sur les Dogons. Peuple Dogon, donc je vous rappelle, qui ont développé une connaissance de l'étoile Sirius au travers d'un observatoire, de plusieurs observatoires qu'ils ont créés en Afrique, au fond de l'Afrique, sans aucun instrument, sans aucun matériel, sans rien, qui aujourd'hui est tout à fait étonnante, jusqu'à identifier autour de la grande étoile Sirius jusqu'à deux compagnons. Le deuxième compagnon vient d'être identifié. Alors que là, on parle de peuples qui, depuis des siècles, avaient cette connaissance. Et éventuellement, un troisième compagnon, ce serait une étoile triple. Alors bon, etc. Plus la fête du Sigi, qui a lieu tous les 37 ans, je crois, faut plus que ça. On y reviendra peut-être dans des émissions ultérieures. Dernier hotspot avant de conclure cette émission, et eh bien c'est tout simplement le fameux thème de l'Eldorado. Le mythe, un mythe qui est apparu dans la région de Bogota en 1536, donc pendant la conquête, qui a été rapidement relayé par les conquistadors espagnols qui ont cru, sur la base du récit du voyage de Francisco de Orellana, évidemment que des cités d'or, littéralement en or massif, existaient. On n'a pas trouvé jamais la moindre trace de tout cela, et le peu d'or que l'on a arraché à ces peuples, aujourd'hui, heureusement, se retrouve dans des musées quand ils n'ont pas été volés. Mais l'or n'était pas plus présent qu'ailleurs, même si, bien sûr, il aura été exploité et pillé abondamment par les puissances coloniales de l'époque. Enfin, le thème de l'Eldorado renvoie aussi à des films, à des grands mythes qui courent encore de façon sporadique dans ce qui reste de la forêt amazonienne inexplorée. On s'imagine encore que peut-être on trouverait quelque chose, si c'est que la forêt amazonienne, sa richesse, on le sait, c'est d'être un des derniers poumons de notre pauvre monde, et que sa préservation est tout à fait essentielle pour l'avenir de la Terre. Les COP 21, 22, 23, etc. sont là pour le montrer. Espérons que cette prise de conscience se poursuivra, bien sûr, au passage. Voilà donc ce que je pouvais dire dans cette histoire du soir sur Radio Terra Zen, en ce début février 2019, sur cette première émission sur la conquête de l'Amérique latine et ses grands mythes. Il y en a bien d'autres, bien sûr, hein, beaucoup d'autres qui existent. Et surtout, ne pas l'oublier, on est dans une archéologie débutante. C'est-à-dire que le thème de la Mésoamérique, l'archéologie mésoaméricaine n'en est qu'à ses tout débuts. Hein. L'archéologie égyptienne, bon, en gros, ça a commencé avec Champollion, quoi, bon, pour pas caricaturer. Donc on est dans les premières décennies du 19e siècle. Déjà deux siècles qu'elle existe, déjà pas mal. L'archéologie gréco-latine, gréco-romaine, hein, là, ça fait quand même déjà beaucoup de temps maintenant qu'elle existe. Donc on commence à connaître quand même pas mal. Hein. Mais l'archéologie de la Mésoamérique, ça fait quoi, un siècle? Voilà, voilà, hein, 1927, 1914, hein, on est vraiment dans les tout débuts d'une nouvelle discipline. Et donc, il y a énormément de choses encore à découvrir. Hein. Je cite toujours cet exemple que j'aime bien, même s'il est un peu vieux maintenant, qui est de dire que, bah oui, on a découvert, hein, ni plus ni moins, à une certaine époque, qu'une plante, hein, qui ne pousse qu'en Amazonie, avait des vertus médicinales permettant de reconstituer la peau des grands brûlés. C'est un fait. Connaissance évidemment de ces peuplades, alors là pour le coup, vraiment complètement disséminées dans la forêt amazonienne, il n'en reste presque plus, hein, à l'heure actuelle, qui avaient cette connaissance, mais voilà, choc des civilisations, là pour le coup il y a un vrai choc des civilisations, il y a un choc destructeur. Hein. Je frémis encore parfois en pensant au savoir que l'humanité a pu perdre. Que l'humanité a pu perdre en conquérant ses peuples d'une manière aussi brutale. Et je frémis aussi en me disant que si un jour des peuples d'un autre monde venaient nous voir, bah, qu'il ne nous arrive pas la même chose. C'est, je le sais, une tarte à la crème, un thème récurrent que de dire ça. C'était une des interrogations d'un très grand astrophysicien qui vient de mourir et qui s'appelait Stephen Hawking. Sur ce, je vous laisse méditer sur cette pensée. Et nous nous retrouverons donc fin avril autour du cabaret du Chat Noir dans un contexte tout à fait différent. C'était Olivier Burette sur la web Radio TerraZen. Merci encore à toi pour cette nouvelle année d'émissions sporadiques. Je te remercie encore très chaleureusement Cédric pour tout le travail que tu fais. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour Histoire du soir, Histoire d'un soir, avec Olivier. À bientôt. Au revoir.